Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
L'histoire qui se passe en Outaouais, c'est un homme coupable d'avoir battu, étranglé et menacé son ex-conjointe qui s'en sort finalement sans casier judiciaire. Il s'appelle Joshua Shaw. Il s'en était violemment pris à son ex-femme après une dispute. On est en mars 2021. Il avait été accusé, lui, d'agression causant des lésions et d'avoir étranglé sa victime en plus de l'avoir menacée. Et là, le juge a décidé de lui accorder une absolution conditionnelle. Pourquoi? Pour ne pas nuire à sa carrière et lui permettre de continuer de voyager. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Est-ce que ça vous rappelle la décision rendue dans le cas de l'ingénieur Simon Hull? C'est pas le même juge, mais c'est drôle. C'est les mêmes explications. Louise Riendeau est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. On l'accueille avec nous aujourd'hui. Madame Riendeau, bonjour.
Bonjour.
Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de cette histoire-là?
Écoutez, ça soulève énormément de questions. On a le sentiment que le juge n'a pas voulu nuire à monsieur, mais on se demande si le juge a tenu compte de la peur de madame, des conséquences des gestes qu'elle a vécus, des conséquences pour les enfants. Les enfants ont assisté à l'agression et semblent craindre pour leur mère. Donc, c'est comme je vous dis, ça soulève vraiment beaucoup de questions. Le juge semble présumer que c'est un premier incident, mais est-ce qu'on a examiné ce qui se passait dans ce couple-là avant? Peut-être qu'il n'y a pas eu d'autres plaintes, mais y a-t-il eu des gestes de contrôle? L'étranglement, tentative, menace de mort, c'est quand même des infractions très graves, là.
Ouais, c'est le juge Serge Lorrain qui lui a accordé cette absolution conditionnelle. Dans le journal, on peut lire que plusieurs mois auparavant, l'accusé dans cette histoire-là avait commencé une relation extra-conjugale. Et là, il avait encouragé sa conjointe de l'époque, la victime, à faire comme lui. Mais là, le jour où c'est arrivé, la dame en question lui a avoué qu'elle avait rencontré quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'elle pète un câble, s'est mis à consommer beaucoup d'alcool, à insulter sa conjointe. Bref, une histoire épouvantable. Et à un moment donné, ben, toujours selon le récit, est allée se réfugier dans sa chambre. Et à ce moment-là, le gars a défoncé la porte avec un oreiller dans sa main. Et là, la dame en question racontait devant le tribunal, dans une lettre, elle pensait qu'elle allait mourir. Rire à ce moment-là. Là. Et c'est leur fille de 13 ans. Vous imaginez là, le traumatisme? C'est leur fille de 13 ans qui a dû appeler les secours en voyant son père là, qui était par-dessus sa mère en train d'essayer de l'étrangler là, puis de la frapper. Sincèrement, là, est-ce que quel message ça envoie pour les victimes? Quel message ça envoie pour cette pauvre femme-là, pour ses enfants qui ont assisté à ça?
Ouais. Ben écoutez, au Québec, on fait beaucoup d'efforts à l'heure actuelle pour tenter de rebâtir la confiance des victimes dans le système de justice. Une décision comme celle-là va certainement pas contribuer à ça. Et effectivement, des victimes peuvent se demander, est-ce que ça vaut la peine de porter plainte, d'aller au tribunal, si au fond, l'homme s'en tire, il n'y a pas de peine dissuasive. Et pour les enfants, ça leur fait dire qu'ils ont aussi vu des choses qui les ont terrorisés, mais qu'au fond, la société ne trouve pas ça grave. Donc, il y a vraiment un problème dans le message que ce jugement-là envoie. Et je lisais dans le journal que le directeur des poursuites criminelles et pénales évaluait à l'heure actuelle s'il irait en appel. Et nous, on espère vivement qu'il va aller en appel parce que il faut dire aux victimes qu'on s'en préoccupe et qu'on traite les choses sérieusement.
Savez-vous ce qui me choque dans des histoires comme ça? C'est que j'ai l'impression qu'on donne mille et une chances aux gens qui commettent des délits comme ça. Dans ce cas-ci, là, hey, il a fait une thérapie. Il a fait une thérapie, que son comportement était une erreur, qu'il le regrettait, qu'il ne voulait pas ruiner sa carrière, travaille à la ville d'Ottawa, et en se retrouvant avec un casier judiciaire. Ça, c'est ce qu'on a mis de l'avant, là, au niveau de la défense. Et là, le juge a dit, ben oui, avec une sentence de 6 mois, ben ça pourrait nuire à son emploi qu'il occupe depuis 15 ans. Est-ce qu'on a pensé un instant au traumatisme aux victimes? Des fois, j'ai l'impression que quand plus je lisais cette histoire-là, je ne sais pas si vous avez eu un peu la même sensation, mais plus je lis cette histoire-là, plus je me dis, mais on donne donc bien des chances aux criminels dans notre système de justice?
Ben effectivement, et ce que ça nous dit, c'est qu'il faut absolument former l'ensemble des intervenants, y compris les juges. À l'heure actuelle, on est en train de former les procureurs, les intervenants psychosociaux. Avec le tribunal spécialisé, on va former les nouveaux juges ou ceux à la retraite qui veulent siéger. Mais ceux qui sont en fonction à l'heure actuelle, ben ça dépend de leur bonne volonté d'aller suivre la formation. Et on peut se demander si le juge qui a rendu ce jugement-là ou d'autres voient vraiment la nécessité de mieux comprendre les situations. La violence conjugale, c'est quelque chose de complexe. C'est rarement un seul incident. Souvent, c'est précédé de toutes sortes de gestes de contrôle avant. Alors, si les magistrats et les autres intervenants ne sont pas capables d'en tenir compte, d'évaluer la situation, ben on n'arrivera pas à des meilleures décisions qui tiennent davantage compte de ce que les victimes ont vécu puis de l'ensemble des traumatismes qu'elles ont.
Je vais vous lire un extrait de la lettre que la victime a écrit. Ok, nos enfants se tournent vers nous en tant que parents pour la sécurité, l'amour, et il les a trahis. Mes garçons ne me disent pas je t'aime sans me dire je t'aime maman, ne meurs pas. Ça a commencé il y a un an. Sans conséquence, ils auront l'impression que vous êtes en train de dire que ce qui s'est passé, alors qu'ils étaient là et terrifiés, c'était correct. Je suis reconnaissante d'être ici, de pouvoir respirer aujourd'hui, mais une partie de moi est morte. Je suis donc ici pour me battre pour mes filles et pour mes fils. Il m'a enlevé la capacité de faire confiance ou d'aimer quelqu'un de manière romantique, l'homme qui était censé me protéger. Honnêtement, je lis ça, je suis très touché par l'écrit de cette victime-là. Comment les victimes réussissent à se reconstruire à la suite d'un traumatisme comme ça?
Ben c'est ça, ça prend beaucoup de temps. Et ici, on leur envoie des messages contradictoires. Si d'une part, on leur dit « vous n'avez pas à vivre ça », mais que d'autre part, il n'y a pas de conséquences quand elles vivent des gestes graves, on les aide pas à se reconstruire et on n'aide pas non plus les enfants à surpasser ces situations-là dont ils ont été témoins et co-victimes. Là, voir son père tenter d'étrangler sa mère, ça laisse des séquelles.
Ouais. C'est clair. Alors, on rappelle aux gens, si vous vivez des situations difficiles, sosviolenceconjugale.ca. Il y a le 1-800-363-9010. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Madame Louise Riendeau, vous êtes porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée, Madame Riendeau. Au revoir.